Une journée pleine de rebondissements. Sébastien Lecornu continue de marcher sur des œufs au lendemain de sa démission. Le président de la République lui laisse jusqu'à mercredi pour bâtir une plateforme d'action et de stabilité pour le pays. Donald Trump se dit assez sûr d'obtenir un accord de cessez-le-feu à Gaza. Le président américain assure que les discussions organisées en Égypte se passent très bien. En Nouvelle-Calédonie, un rêve de gosse. Une centaine d'enfants valides et handicapés ont survolé Nouméa ce matin. Une première sur le territoire. Reportage à suivre dans ce journal. Le sport, du football et Florian Thauvin qui revoit la vie en bleu. Après 6 ans d'absence, l'attaquant du RC Lens fait son retour en équipe de France pour les qualifications à la Coupe du Monde 2026. Bonjour à tous et bienvenue dans Infomag pour tout savoir de l'actualité en Nouvelle-Calédonie, en métropole et dans le monde. Avant de développer tous ces titres qui font l'actualité ce midi, un coup d'œil au magazine Citoyen. Après ce journal, nous parlerons santé mentale aujourd'hui avec notamment le docteur Karine Anselme, psychiatre au CHS. Une neuropsychologue sera avec nous ainsi qu'une personne représentant l'association Hippocampe et une personne ressource qui témoignera de son parcours vers la réhabilitation. Reportage tout à l'heure donc dans le magazine Citoyen. C'est une crise politique sans précédent que connaît la France au lendemain de la démission de Sébastien Lecornu de ses fonctions de Premier ministre. Sébastien Lecornu, qui aura été le Premier ministre le plus éphémère de l'histoire. Il aura tenu 17 jours et son gouvernement 14 heures et 26 minutes. Il est désormais en charge des affaires courantes et il a été missionné par le président de la République pour trouver un accord sur les principales forces politiques. Une situation inédite qui va de rebondissement en rebondissement, Elisabeth Noir.
La France connaît effectivement une crise sans précédent avec ce coup de théâtre hier soir pour nous de la démission de Sébastien Lecornu quelques heures seulement après l'annonce de la constitution de son gouvernement. La pierre d'achoppement, c'est notamment la nomination de Bruno Le Maire comme ministre des Armées. L'ancien titulaire de Bercy fait figure d'épouvantail, l'un des responsables du déraillement de la dette. Peu après la publication du nouveau gouvernement, le président des LR, Bruno Retailleau, s'insurge publiquement contre sa composition qui ne reflète pas la rupture promise. Il n'avait pas été prévenu de la présence de Bruno Le Maire malgré 1h30 d'entretien en tête à tête avec le Premier ministre et il annonce la convocation immédiate des instances des Républicains. Et quelques heures après la nomination de son gouvernement, Sébastien Lecornu fait le constat que les conditions ne sont pas réunies et il annonce sa démission.
Être Premier ministre est une tâche difficile, sans doute encore un peu plus difficile en ce moment, mais on ne peut pas être Premier ministre lorsque les conditions ne sont pas remplies. Depuis 3 semaines, pourtant, j'ai tenté de bâtir les conditions pour lesquelles nous pourrions faire adopter un budget pour la France, pour l'État, mais aussi pour la sécurité sociale et répondre à quelques urgences importantes qui ne peuvent pas attendre 2027, l'élection présidentielle. Je ne veux pas toutes les citer, mais on le sait, sécurité du quotidien, les questions liées au pouvoir d'achat et au travail, la Nouvelle-Calédonie, les armées, dans un contexte international difficile, et tant d'autres sujets.
Sébastien Lecornu qui cite la Nouvelle-Calédonie parmi les dossiers urgents. Il regrette la situation et il appelle à la responsabilité. Il faut, dit-il, préférer son pays à son parti.
Et le dernier point, et je le dis avec respect, moi qui suis un militant, qui au fond est gravi les marches de la méritocratie républicaine grâce à l'élection comme maire, comme président de département, comme sénateur, je suis un militant et j'ai du respect pour celles et ceux qui s'engagent. Mais il faut toujours préférer son pays à son parti. Et il faut savoir écouter ses militants, mais toujours penser aux Françaises et aux Français.
Après la confirmation de cette démission, les réactions ont été immédiates dans la classe politique, en commençant par celle de Marine Le Pen, qui appelle à la dissolution de l'Assemblée nationale.
Car nous sommes au bout du chemin, et il n'y a pas de solution. Il n'y en aura pas plus demain. Et par conséquent, la seule décision sage dans ces circonstances est prévu par la Constitution de la Ve République, c'est d'en revenir aux urnes.
Le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, réclame quant à lui la démission d'Emmanuel Macron.
Il faut donc, pour répondre à ce moment, prendre à bras le corps le cœur du problème. C'est-à-dire le président de la République et sa légitimité à continuer à décider dans de telles circonstances. Il est l'origine du chaos.
Le gouvernement Lecornu aurait été le plus bref de la Ve République, mais un autre rebondissement est intervenu dans la nuit pour nous. Emmanuel Macron a en effet demandé à Sébastien Lecornu, qui est en charge des affaires courantes, de mener d'ici à mercredi soir d'ultimes négociations avec les différents partis politiques sur une plateforme d'action et de stabilité pour le pays, des négociations à la suite desquelles le président de la République annonce qu'il prendra ses responsabilités. Le Premier ministre démissionnaire a ensuite eu des entretiens avec le chef de l'État, qui a choisi de ne pas s'exprimer publiquement, puis avec le président du Sénat, Gérard Larcher, et puis, autre événement parmi toutes les réactions politiques, celle de Gabriel Attal, l'ancien Premier ministre et président du parti présidentiel. Il était l'invité du 20h de TF1, et il a clairement pris ses distances avec Emmanuel Macron, dont il déclare ne plus comprendre les réactions.
Oui, vous avez raison, on vit des heures graves. Comme beaucoup de Français, je ne comprends plus les décisions du président de la République. Il y a eu la dissolution et il y a depuis des décisions qui donnent le sentiment d'une forme d'acharnement à vouloir garder la main. Moi, ce que j'avais proposé et ce qu'on avait proposé avec Renaissance, c'est un changement de méthode, précisément pour donner le sentiment qu'on a compris, qu'il a été compris par le président de la République, qu'il faut maintenant partager le pouvoir. C'est quand même ce que les Français nous ont dit au moment des élections de 2024 après la dissolution.
Voilà en tout cas qui confirme la nette prise de distance entre Gabriel Attal et Emmanuel Macron. Réaction à gauche également où le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, parle de théâtre de boulevard. Mais il accepterait Matignon si le président de la République le lui proposait et il appelle à un gouvernement de gauche.
Je plaide ce soir devant vous, devant les Françaises et les Français, pour que ce changement de cap ait lieu et qu'un gouvernement de gauche puisse arriver. On a un théâtre de boulevard depuis hier qui est insupportable. Des ministres qui reviennent par la fenêtre, qui sortent par la porte, qui, enfin, tout ça n'a plus aucun sens. Je demande le respect des Français, de leur vote. Et il y a un an, quand ils ont dit qu'ils donnaient la priorité à la gauche, même si, effectivement,
nous ne sommes pas du tout majoritaire
absolue. Nous ne sommes pas majorité absolue, mais nous sommes arrivés en tête. Et ensuite, ils ont dit qu'ils refusaient l'extrême droite au pouvoir.
Et dans la soirée au Rassemblement national, Marine Le Pen a réaffirmé qu'une dissolution de l'Assemblée nationale était incontournable et elle estime qu'une démission d'Emmanuel Macron serait sage. Une réunion des députés de son parti avait lieu en fin d'après-midi. Une crise politique inédite donc sous la Ve République. Elle a débuté avec la dissolution de juin 2024, suivie de la nomination de trois premiers ministres, Michel Barnier, François Bayrou et Sébastien Lecornu. Emmanuel Macron a de moins en moins de cartes en main. Il peut nommer un nouveau Premier ministre, mais au risque de le voir immédiatement tomber. Dissoudre l'Assemblée nationale pour la deuxième fois, mais sans être assuré qu'une majorité se dessine au Palais Bourbon. Voire tout simplement démissionner, mais c'est une option qu'il a toujours écartée. Le président de la République qui est désormais suspendu aux ultimes négociations que Sébastien Lecornu va mener d'ici mercredi soir.
Et en Nouvelle-Calédonie, Elisabeth, la démission de Sébastien Lecornu suscite des interrogations et des inquiétudes.
Pour Sonia Bekes qui s'exprime sur ses réseaux sociaux, la démission de Sébastien Lecornu est le signe d'une crise politique sans précédent à l'échelle nationale. Elle estime que cette crise arrive au plus mauvais moment pour la Nouvelle-Calédonie. Elle ajoute, quel que soit notre bord politique, nous aurons besoin d'être unis pour faire face aux difficultés générées par cette crise. Le député Nicolas Metzdorf écrit lui aussi sur Facebook que la France traverse une crise de régime sans précédent au plus mauvais moment pour la Nouvelle-Calédonie. Les Calédoniens doivent se montrer solidaires plus que jamais, écrit-il. L'instabilité nationale est mauvaise, quelle que soit notre appartenance politique locale. Le député de la première circonscription qui ajoute un conseil à notre classe politique de ne pas reproduire le spectacle affligeant que nous offre Paris. Et concernant la Nouvelle-Calédonie, il précise que les services de l'Élysée et de Matignon regardent désormais si une procédure d'urgence d'adoption de la loi reportant les provinciales pourrait être adoptée avec un gouvernement démissionnaire. L'objectif étant toujours, selon Nicolas Metzdorf, de pouvoir organiser une consultation des Calédoniens concernant l'accord de Bougival. En tout cas, écrit-il, les choses aujourd'hui ne sont clairement pas arrêtées et elles évoluent d'heure en heure. Et puis réaction également du député Emmanuel Tchibaou qui estime que le dialogue reste la seule voie pérenne. Dans ce moment d'incertitude politique à Paris, une chose reste claire, écrit-il, le destin de notre pays ne peut se construire sans la recherche sincère du consensus. La démission du Premier ministre ne doit pas interrompre le travail engagé, mais au contraire rappeler l'urgence de renouer un dialogue loyal, respectueux et équilibré. Le député de la seconde circonscription annonce aussi que le groupe socialiste du Sénat a déposé en commission des lois un amendement à la proposition de loi organique de report des provinciales pour affirmer la volonté de poursuivre le dialogue entre toutes les parties, y compris le FLNKS, dans un esprit de concertation, de confiance et d'ouverture vers la pleine souveraineté. Cet amendement, selon Emmanuel Tchibaou, invite la commission des lois du Sénat à reconnaître que le FLNKS reste incontournable et qu'aucune solution durable ne peut émerger sans sa pleine participation.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici justement notre question du jour. Êtes-vous déçu de la démission de Sébastien Lecornu ? Si vous êtes déçu, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. La réponse à notre question d'hier à présent, et elle est un peu bousculée évidemment par l'actualité politique nationale, puisque nous vous l'avions posée avant la démission de Sébastien Lecornu. 94% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS se disaient satisfaits que Manuel Valls soit reconduit au ministère des Outre-mer. Il n'était que 6% à dire qu'il n'était pas satisfait. Merci évidemment pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. En attendant, il est 11h passé de 41 minutes. Vous écoutez Radio Rythme Bleu. On va marquer une première pause publicitaire dans ce journal, puis l'actualité en Nouvelle-Calédonie avec notamment des rêves de gosses réalisés ce matin à Nouméa.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Attention Païta, préparez vos chapeaux et vos fourchettes. Dimanche 12 octobre, c'est la 27e fête du bœuf. Rodéo, dégustation, jeux équestres et surtout le grand concours de barbecue avec 20 équipes en feu. Venez vivre une journée 100% western, 100% locale. C'est gratuit, c'est convivial, c'est à Païta. Dès 8h30 du matin, toutes les infos sur païta.nc.
Vos agendas 2026 sont disponibles dès maintenant chez Bureau Vallée à partir de 175 francs. Avec les agendas semainiers Quo Vadis, profitez d'une mise en page claire, d'une organisation pratique et d'une fabrication française au service des pros.
Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas.
Solenco, la référence pour la pose de vos sols. Parquet, sol souple, ragréage, particulier ou pro, choisissez la qualité. Solenco, 83 92 99. Solenco, la qualité sous vos pas.
Vous êtes une entreprise, association ou collectivité ? Vous réduisez, réutilisez, recyclez les déchets ou vous souhaitez vous lancer dans cette démarche ? La Province Sud et l'ADEME peuvent financer votre projet. Pour cela, il suffit de répondre à l'appel à projet Économie Circulaire avant le 14 novembre. Rendez-vous sur le site province-sud.nc. La Province Sud, agir pour l'avenir.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Nicolas Legrand.
La suite du journal avec l'actualité en Nouvelle-Calédonie. Éleveurs et agriculteurs sont réunis aujourd'hui à Bouloupari pour la troisième édition des rencontres de qualité. Les deux précédentes portaient sur l'agriculture responsable et le label certifié authentique. L'objectif est de construire des accords commerciaux capables de soutenir l'ambition de la Chambre d'agriculture et de la pêche, à savoir le mangeons local. Écoutez François Haas de la Chambre d'agriculture et de la pêche.
Aujourd'hui, c'est sur le label BioPacifica, et en l'occurrence sur la viande bio, et puis il y en aura peut-être dans les mois qui viennent sur la pêche responsable. Le mangeons local est mis à l'honneur lors de ces rencontres de qualité, donc qui ont pour but de rassembler aujourd'hui des éleveurs en bovins bio et des acheteurs professionnels, et également du coup des intermédiaires comme des ateliers de découpe. Donc l'objectif, c'est qu'il y ait des échanges entre tous ces acteurs de la filière et que, in fine, il y ait des partenariats commerciaux qui se créent dans les semaines et mois qui viennent.
Et les participants ont visité l'élevage de Patrick Garrier, puis participé à des tables rondes. Vous venez d'entendre François Haas, qui est donc responsable de la mise en marché et de la valorisation des signes de qualité à la Chambre d'agriculture et de la pêche. Le développement durable au cœur d'une semaine d'information au collège Edmé Varin. Plusieurs organismes et associations interviennent ce matin auprès des jeunes pour les sensibiliser et leur présenter différents modes d'action en faveur de l'environnement. Charlotte Coulson.
Le développement durable, c'est un concept que tout le monde connaît et qui est pourtant plus complexe qu'il n'y paraît. Car on peut trier ses déchets, prendre son vélo plutôt que la voiture. Mais il y a bien d'autres manières d'agir et ça, les élèves du collège d'Auteuil l'ont bien compris. Entre les stands de couture, de fabrication de produits ménagers ou même de peinture, les jeunes ont découvert de nombreux modes d'action en faveur du développement durable. Les élèves de 6e, par exemple, se sont montrés très intéressés.
Première question, qu'est-ce que le développement durable ? A, un développement non écologique. B, un développement écologique. C, un développement écologique qui répond à notre génération sans nuire aux générations futures.
C.
Le développement durable, c'est qu'on fait des trucs pour aujourd'hui et que ça dure pour les générations futures, que ça refasse pareil.
La recycleuse, ça parle de comment ils prennent des vêtements déjà utilisés et ils les réutilisent pour en faire d'autres trucs, comme par exemple un t-shirt, ils les transforment en sac ou une jupe tachée en sacoche.
C'est pratique pour pas polluer. Parce
parce qu'après, ça gaspille pour rien et ça pollue la nature. Du coup, c'est mieux de réutiliser, de faire du recyclage avec du tissu.
Et le but de cette matinée forum était bien sûr de sensibiliser la jeunesse, mais aussi de présenter aux élèves les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Et rien de mieux pour ce faire que la pédagogie par les pairs. Emmanuelle Mota de Oliveira, enseignante et référente développement durable, s'est assurée d'impliquer directement les élèves dans cette matinée de rencontre.
C'est les sensibiliser à ce qui se fait en Calédonie, à préserver l'environnement, mais pas que, puisque développement durable, ce n'est pas que sur la protection de la faune et de la flore, c'est aussi le social et l'économique. Donc on a voulu un peu élargir ces domaines-là, les faire se rencontrer, puisque nos élèves n'ont pas forcément la possibilité d'aller les voir, donc on les fait venir dans notre établissement. Et surtout, on a nos élèves qui sont mis à l'honneur, puisqu'on a un petit groupe d'éco-délégués qui ont préparé des ateliers. On a les Ulysse qui ont animé des ateliers couture et qui ont fabriqué des objets à partir de vieux tissus. Les élèves de SECPA aussi ont fabriqué des produits d'entretien à partir de produits naturels d'entretien, on va dire.
Des ateliers et confection de cosmétiques, de gestion des eaux ou même d'informations sur les droits de l'enfant seront organisés le reste de la semaine au collège Edmé Varin à Dinméa.
Merci Charlotte Coulson. Une journée magique et un rêve de gosse accompli. Une centaine d'enfants, certains atteints de handicap, ont pu survoler Nouméa ce matin durant une vingtaine de minutes pour leur plus grand bonheur, Léana Colombo.
Oui, c'est l'histoire d'une rencontre entre des enfants ordinaires et extraordinaires. Depuis près d'un an, le Rotary Club du Wentoro et les différentes structures d'accueil des publics en situation de handicap sur le territoire organisent des rencontres pour qu'ils apprennent à se connaître et à appréhender leurs différences. C'est effectivement le but de l'action nationale Rêve de Gosse qui est organisée pour la première fois en Nouvelle-Calédonie. Et aujourd'hui, point culminant de cette initiative, 40 enfants ordinaires et 60 extraordinaires ont pu monter à bord d'avions et même d'un CASA pour un vol d'une vingtaine de minutes au-dessus du lagon depuis l'aérodrome de Magenta.
Déjà ce matin, il était tout content de partir. Il fallait qu'on fasse vite pour le préparer et tout ça. Alors j'espère que ça va lui faire plaisir. Mais comme il aime bien tout ça, je pense que ça va pas lui déplaire.
Oyez, oyez, un dernier appel pour l'embarquement. Je répète, les gommettes roses sont attendues à l'embarquement CASA.
Allez, on leur fait un grand coucou. Tata, les enfants, à tout à l'heure.
J'aime bien monter dans l'avion.
Moi, j'ai déjà allé dans un avion.
Et voilà, il s'est posé.
Comment s'est passé ce vol? Comment ils l'ont ressenti? Est-ce que ce rêve s'est réalisé?
Trop bien!
Vous avez vu quelque chose?
Le lagon et la barrière de corail.
Moi, j'ai cru voir une tortue un moment.
J'ai bien aimé parce que le décollage, ça faisait un peu de bruit, mais après, c'était bien. Mais quand on est arrivé là-bas à faire des virages, d'un moment, il y a eu un peu de secousse. C'était la première fois que j'étais dans un avion militaire, ça m'a très plu.
Et pour cette occasion, le vice-président de Rêve de Gosse France, Anthony Napic-Briden, est venu en Nouvelle-Calédonie.
Le vol, ce n'est qu'un prétexte en fait pour nous. Pour nous, le vrai travail, c'est le projet pédagogique qui va durer un an, où ces enfants vont se rencontrer. Nous, on utilise le vocable enfant au parcours extraordinaire et ordinaire. Entendons extraordinaire comme des parcours cabossés par la vie, la maladie, la société, la justice. Ces enfants se rencontrent, ils font un projet commun et on utilise l'aéronautique comme un vecteur pour qu'ils s'en souviennent toute leur vie. Nous, on dit toujours, par exemple, nos enfants, ils vont faire leur premier vol aujourd'hui. On veut qu'ils s'en souviennent, mais on veut surtout qu'ils se souviennent avec qui ils ont volé. En tant qu'adultes, on se souvient toujours du premier vol qu'on fait. Ben, nous, on veut que nos enfants, nos gosses, ils se souviennent du premier vol qu'ils ont fait avec un enfant qui n'était pas comme eux, un peu différent, un peu à côté. On plante les graines de l'inclusion.
Guy Raguin et Pierre Ferbank étaient les parrains de cette action Rêve de Gosse en Nouvelle-Calédonie. Et si Guy Raguin était bien présent ce matin, Pierre Ferbank, lui, n'a pas pu se rendre à l'aérodrome de Magenta en raison de son récent déplacement pour les championnats du monde d'handisport. Et c'était en Inde.
Merci Léana Colombo. Il est 11h passé de 49 minutes. On marque une nouvelle pause dans ce journal avant de voir la suite de l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Votre tranquillité d'esprit, avant tout. Pour recevoir toutes les informations importantes sur les coupures, le montant de votre facture et la date d'autorelève, mettez à jour vos contacts e-mail et numéros de téléphone. Contactez-nous à clientèle@cde.nc ou au 05 01 25. Calédonienne des eaux, l'eau qui nous unit.
Douleurs articulaires ou musculaires, mal de dos, mal de genou, le roller pur essentiel articulation et muscles réduit immédiatement et durablement la douleur grâce à sa bille massante et ses 14 huiles essentielles. C'est cliniquement prouvé. Dispositif médical en pharmacie. Pur essentiel, l'efficacité à l'état pur. Et pour la préparation et la récupération musculaire, découvrez l'huile de massage Arnica Gold Terry Pure Essentiel avant et après l'effort.
Le FSH déménage. À partir du 20 octobre, nous aurons le plaisir de vous recevoir à Dimbéa, au 42 avenue Paul-Émile Victor, en face du cinéma Origine. Pour les besoins du déménagement, nous serons fermés au public les 16 et 17 octobre. Toutefois, nos numéros de téléphone et adresse e-mail restent inchangés pour assurer une continuité du service. Un nouveau lieu pour mieux vous recevoir et être plus proche de vous. Fonds social de l'habitat, c'est bien plus qu'un toit.
En octobre, Ubaïkotex présente l'opération Unie pour elle. Pour chaque paquet de protection acheté, 20 francs seront reversés à l'association Amazon Nouvelle-Calédonie au profit des familles de femmes touchées par la maladie. Soutenez autrement celles qui luttent chaque jour avec Ubaïkotex. Plus d'informations sur le Facebook Sakebon NC.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actualité en métropole et dans le monde, c'est la suite d'InfoMag. On retrouve Jean-Nicolas Legrand.
Et tout d'abord, la mosquée des Bleus à Marseille, une nouvelle fois dans le viseur des autorités. Le préfet des Bouches-du-Rhône adresse officiellement aujourd'hui un arrêté de fermeture pour une durée de 2 mois aux dirigeants de ce lieu de culte, 1 an après une première tentative. En cause dans cette affaire, les prêches d'un imam réputé proche de la mouvance salafiste. Une fermeture immédiatement contestée devant le tribunal administratif, William Molinier.
Oui, à la tête de ce lieu de culte des quartiers nord de Marseille, Smaïn Benjilali, un imam considéré par les autorités comme radicalisé. Il a été condamné en mai dernier pour apologie du terrorisme, mais il a repris très rapidement ses prêches après la décision de justice. La préfecture des Bouches-du-Rhône entend mettre un coup d'arrêt à ses discours fondamentalistes. Un arrêté de fermeture pendant 2 mois lui a été notifié ce matin. Plusieurs arguments à l'appui, notamment des publications appelant à la haine, à la violence ou à la discrimination. Certaines d'entre elles, déjà pointées il y a un an, sont toujours en ligne. D'autres sont plus récentes, comme un post sur Facebook faisant référence à un ouvrage prisé des frères musulmans. Pour les autorités, Smaïn Benjilali poursuit, je cite, sa défense d'une pratique radicale de l'islam qui instaure un terreau propice à la commission d'actes violents. L'imam des quartiers nord conteste cette fermeture. Le tribunal administratif de Marseille doit examiner jeudi ce recours en référé liberté.
William Molinier pour Europe 1. En bref, un policier fauché, traîné sur 200 mètres par un chauffard lors d'un contrôle routier. Ça s'est passé dans le 16e arrondissement de Paris. Le conducteur était sous l'emprise de l'alcool, mais aussi de protoxyde d'azote au moment des faits. Il est en garde à vue. Quant au fonctionnaire, il a été hospitalisé, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Dans l'actualité judiciaire, un témoignage clé aujourd'hui au procès de Cédric Jubilard devant les assises du Tarn, celui de l'amant de Delphine, cet homme pour qui l'infirmière avait prévu de tout quitter avant sa disparition. Le quadragénaire affirme avoir l'intime conviction de la culpabilité de l'accusé. Il assure d'ailleurs que Delphine avait reçu des menaces de la part de son mari. Au cours de son audition, l'amant a aussi été invité à s'expliquer sur un point mis en avant par la défense, la localisation de son téléphone portable le soir de la disparition. Il a borné à proximité du domicile des Jubilards, comme 200 autres portables du secteur. Maître Martin, avocat de la Défense, estime que les enquêteurs ont falsifié la procédure pour faire porter tous les soupçons sur son client, Cédric Jubilard.
Une fois que le téléphone de Jean-Donat Maquet est sorti sur ce listing, des réquisitions ont été prises. Ça veut dire que ce téléphone, il existe, cette ligne, elle existe, elle a déclenché. Et là, ils ont pris des réquisitions pour analyser. Et cette analyse fait l'objet de 215 procès-verbaux d'analyse de chaque ligne. Et le seul PV qui manque, c'est l'analyse de la ligne de Jean-Donat Maquet.
Et les avocats de la partie civile estiment qu'il ne s'agit pas d'un coup de théâtre dans cette 3e semaine d'audience aux assises du Tarn. Ils affirment que le téléphone de l'amant de Delphine Jubilard a surtout borné chez lui, à Montauban et en Wi-Fi. La question de réentendre les enquêteurs ou un expert à ce sujet a été mise en délibéré par la présidente. La décision sera prise dans les jours qui viennent. Et puis en bref, Gisèle Pelicot face au seul accusé ayant fait appel dans le procès des viols de Mazan. L'audience a débuté la nuit dernière pour nous. Sur les 50 accusés, 17 avaient initialement fait appel, mais un seul a maintenu sa démarche. Il s'agit d'un ancien ouvrier du bâtiment condamné à 9 ans de prison en première instance. Il déclare qu'il n'a jamais voulu violer Gisèle Pelicot et qu'il a été piégé par Dominique Pelicot, son mari. Le procès doit durer jusqu'à mercredi ou jeudi au plus tard. À l'étranger, début des négociations décisives pour la paix à Gaza. Des délégations du Hamas et d'Israël, mais aussi des États-Unis, sont présentes en Égypte pour discuter du plan de cessez-le-feu qui a été présenté il y a une semaine maintenant par Donald Trump. le président américain qui se dit assez sûr d'obtenir un accord de cessez-le-feu. Il assure que ces discussions organisées en Égypte se passent très bien et que, je cite, le Hamas a accepté certaines choses très importantes. Il souhaite que les libérations d'otages approuvées par le Hamas aient lieu dès cette semaine. Il assure qu'il ne tolérera aucun retard. C'est pour parler de la dernière chance, suscite évidemment un immense espoir parmi les familles des otages. Un accord de paix tant attendu qui pourrait intervenir 2 ans, jour pour jour, après les attaques du 7 octobre, où les hommages se multiplient. C'était le cas encore la nuit dernière au kibboutz de Nir Oz, où 106 personnes ont été tuées.
J'étais professeur et beaucoup de mes élèves, des enfants ont été tués, mes amis ont été tués. On y pense chaque jour et il nous manque.
Le Hamas est entré dans la maison et ils ont emmené ma mère à Gaza sur une moto. Mon père a été kidnappé peu après, avant d'être tué à Gaza 2 jours plus tard.
C'est bizarre d'être ici. Il y a tant de temps de gens bien. Je n'ai plus l'impression que c'est ma maison ici. Je ne pourrai plus y vivre.
Des témoignages recueillis par Antoine Bienvaux, l'envoyé spécial d'Europe 1 en Israël. 11h56, vous écoutez Radio Rythme Bleu. On marque une dernière pause avant de voir toute l'actualité sportive.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La Chambre d'Agriculture et de la Pêche, en partenariat avec l'Agence sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie, vous invite au Grand Marché de Ducos, samedi 11 octobre de 7h à 14h. Au menu du jour, animation sportive, dégustation, concours de barbecue et bien sûr des produits locaux.
L'UNC s'illumine pour la Nuit de la Science 2025 sur le thème des intelligences. Le 7 octobre sur le campus de Baco et le 8 octobre sur le campus de Nouville de 16h à 21h. Plongez dans un univers fascinant entre spectacles numériques et danseurs de hip-hop, débats, projections ciné, visites de laboratoire, ateliers Fab Lab et immersion dans les étoiles avec Astragora et Johanna Berthaud de la NASA et le Planétarium. Entrée libre, ouverte à toutes et à tous. Ne manquez pas ces moments de découverte et d'émerveillement de la Nuit de la Science à l'UNC. Organisé dans le cadre de la Fête de la Science. Rendez-vous sur unc.nc pour le programme complet.
Au Château Royal, chaque mois est une nouvelle invitation au voyage. Laissez-vous surprendre par un menu dégustation inédit où chaque assiette révèle l'alliance parfaite entre créativité et harmonie des saveurs. Une expérience immersive, sublimée par des accords soigneusement pensés, pour que chaque bouchée devienne un souvenir inoubliable. Retrouvez notre prochain menu et notre prochaine date sur notre page Facebook afin de réserver votre rendez-vous mensuel. Place limitée, réservation obligatoire au 29 64 00.
Tout le sport en 3 lettres, RRB.
L'actualité sportive avec vous, Nicolas Legrand.
Et tout d'abord du football avec un grand retour parmi les Bleus. Florian Thauvin, champion du monde 2018, est convoqué par Didier Deschamps pour les 2 prochains matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Il remplace le Parisien Bradley Barcola, blessé à la cuisse. L'attaquant du RC Lens n'avait plus été sélectionné depuis juin 2019. Toujours en bref, la 21e nuit du rugby avait lieu ce matin pour nous. Un petit point sur le palmarès. Le Britannique Jack Willis, 3e ligne au Stade Toulousain, est élu meilleur joueur du top 14. Autre récompense pour Toulouse, celle du meilleur entraîneur pour Hugo Mola et son staff. Le Bordelais Louis Bielbarret est sacré meilleur international français. En basket, la superstar américaine LeBron James pourrait dévoiler la date de sa retraite. Demain, à 40 ans, le King promet une grande annonce qu'il présente comme, je cite, « la décision des décisions ». La légende des Los Angeles Lakers devrait, quoi qu'il arrive, disputer sa 23e saison NBA à partir de fin octobre. Et puis du tennis, pour terminer, on joue les Masters 1000 de Shanghai avec un bel exploit à côté tricolore. Au 3e tour, le français Arthur Hinderknecht a renversé Alexander Zverev. Comme à Wimbledon, il s'est offert le numéro 3 mondial et se qualifie ainsi pour les 8e de finale. Score final 4-6, 6-3, 6-2. Au prochain tour, il retrouvera Jiří Leeka, tombeur de Denis Shapovalov. Et puis chez les dames, le WTA 1000 de Wuhan. La Française Varvara Gracheva a été battue d'entrée de jeu au premier tour par l'Espagnole Jessica Buzas Manero. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le prochain point sur l'actualité, ce sera à 13h avec le Flash, juste après la publicité, notre magazine citoyen consacré cette semaine à la santé mentale.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.